Voilà, pour la première partie de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Foucard. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va parler d'une entreprise et de sa recherche et de son développement, puisqu'il s'agit de Exotech, donc une entreprise originale, peut-être on peut dire dans notre région, assez atypique, en tout cas, qui va vers l'avenir.
Ouais, je pense que c'est un assez bon résumé. On a un certain nombre de particularités, par exemple celui de faire de la robotique. Donc on est une entreprise qui est industrielle, ce qui est relativement peu fréquent des entreprises industrielles qui réussissent à notre niveau ces temps-ci sur des entreprises nouvelles. Et on a d'ailleurs été cette année mis à l'honneur en devenant la 25e licorne française.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle une licorne, Stéphanie Foucard ?
Eh bien, c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Donc, c'est en général des startups qui, à la suite de levées de fonds, sont valorisées assez montant.
Quand on dit valorisé, ça entend quoi ?
C'est la valeur financière de l'entreprise.
Actuelle ou potentielle ?
Alors, actuel en début d'année dernière, donc aujourd'hui, c'est pas réactualisé, mais vu notre croissance, je pense qu'on est encore au-delà si on devait réactualiser la valorisation à aujourd'hui.
Donc, quand on dit croissance, on a le développement, bien sûr, de l'entreprise en termes d'activité, sa capacité à vendre, à exporter, etc. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes qui sont vos collaborateurs, que vous recrutez aussi.
Exactement. Depuis la création d'Exotech, donc depuis ces dernières années, on a eu la chance d'avoir rencontré un succès commercial qui fait que tous les ans, on a réussi à doubler notre chiffre d'affaires et notre carnet de commandes et également à doubler nos effectifs pour nous amener aujourd'hui à peu près 600 personnes à travers le monde, dont la moitié environ en France.
Donc, comme vous le disiez, des licornes dans notre région Hauts-de-France, il y en aurait combien selon vous ?
J'ai pas le chiffre exact en tête, mais au total, on est une trentaine en France, donc il y en a quelques. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont basées à Euratech, mais je saurais pas dire le chiffre exact.
Mmh. Et donc ces licornes-là, certaines sont déjà installées depuis un moment. Et vous, il y a combien d'années que vous avez démarré votre activité ?
Nous, on va attendre nos 8 ans. On a été créé en 2015 par nos deux fondateurs, Renaud et Romain. Initialement en région parisienne et on a rejoint le nord de la France en 2017.
Alors pourquoi le choix des Hauts-de-France pour vous développer ?
Ça a été un choix à la fois rationnel en termes de positionnement au sein de l'Europe, au cœur des moyens de communication, des transports, à portée de jet de pierre de Paris, de Londres, de Bruxelles. Et c'est aussi un confort de vie pour toutes les personnes qui rejoignent l'aventure de pouvoir vivre dans le cadre de la région.
Alors, c'est vrai que vous vous êtes implanté à Croix, une ville sympathique ?
Oui, tout à fait. Et on commence à déborder sur les communes alentours. Notre siège social est en effet à Croix. On a pris récemment des bureaux dans le centre de Croix en complément, des bureaux à Ouescal et à Mons pour supporter notre croissance, parce qu'on a vite besoin de pousser les murs.
Alors, au-delà des bureaux, vous avez aussi des ateliers de tests, d'essais, d'instruments, enfin d'appareils ?
Tout à fait. On a à la fois la recherche et le développement qui est basé sur Croix, ce qui fait qu'on a un certain nombre de systèmes de tests. Donc pour pouvoir se représenter un petit peu, on fait des systèmes robotiques qui ont vocation à automatiser les entrepôts. Donc notre cœur de système, le SkyPod System, c'est un système de rack avec des bacs qui vont contenir de la marchandise et un certain nombre de robots qui sont capables de se déplacer en trois dimensions, donc au sol et dans les racks pour venir amener cette marchandise à un opérateur qui va préparer les commandes. Mmh. Donc ça prend de la place. Donc on a des moyens de test pour la R&D, on a des moyens de test également pour garantir la qualité des robots qui sortent de nos ateliers de production. Et enfin, on a toute la partie manufacture et stockage de nos produits qui est réalisée en intégralité à Croix et à Mons avant leur expédition un peu partout dans le monde.
Alors, dans l'imaginaire collectif, quand on pense à robots, on pense à des formes un peu humaines qui sont bien sûr automatisées. Est-ce que vos robots ont une esthétique particulière?
Alors, nos robots, ce sont des... Ils ont globalement une forme carrée, cubique, un petit parallélépipède qui se déplace avec des roues. Donc, ça ne ressemble pas du tout à un humanoïde. On est sur des robots qui sont utilitaires, qui sont utilisés pour de la logistique. Leur but, c'est de transporter des bacs. Donc, globalement, ils ont la forme d'un bac pour pouvoir se faufiler ensuite partout au travers les racks.
Alors Stéphanie Foucault, vous le savez sans doute, hein, notre université, l'Université de Lille, a été à l'origine, on va dire, de la création d'un très grand robot qui fonctionne toujours, c'est le VAL, le métro de Lille.
Je connais pas particulièrement ce projet, mais...
Disons que c'est pour remplacer les systèmes habituels, tram, etc. Mm-hmm. Un métro sans conducteur, c'était une sorte de révolution industrielle aussi.
En effet, les véhicules autonomes peuvent être considérés par certains aspects comme des robots. On a le même type de problématique de localisation, de perception dans l'environnement, de déplacement. Ce sont en effet des sujets qu'on a tout à fait en commun avec ce type de projet.
Alors, c'est vrai que dans l'esprit des concepteurs de ces robots, il y a plusieurs choses, plusieurs... on va dire, intérêts, avec aussi des conséquences pas forcément positives. On va peut-être en aborder quelques-unes. Donc, évidemment, les robots peuvent parfois aller plus vite, être plus efficaces que les humains. C'est vrai ou pas ?
C'est pas tout à fait notre conception. Notre conception, c'est que les robots sont des outils. Les outils sont à la portée des humains, donc on ne vient pas remplacer des opérateurs, on vient plutôt leur servir à s'éviter de porter des charges lourdes, de faire des kilomètres et des kilomètres dans les entrepôts. On est sur des métiers qui sont assez exigeants physiquement, mmh, et assez exigeants en termes de type d'horaire, par exemple, puisqu'on est souvent sur des horaires postés, dans des conditions qui sont, il faut le dire, relativement difficiles. Nous, on vient apporter une solution pour rendre finalement les opérateurs, leur donner la valeur ajoutée qu'ils devraient toujours avoir.
Donc, ces opérateurs sont nombreux dans l'entreprise, hein, Exotech ?
Alors, nous, on fournit des solutions à nos clients, et donc ce sont les opérateurs des clients. Mmh. Et donc, sur tous les entrepôts qu'on a équipés, en réalité, il n'y a pas eu de diminution de personnel jusqu'ici. Et c'est plutôt l'évolution des missions dans le rôle des opérateurs. Donc maintenant, ils vont, plutôt que de parcourir des kilomètres et des kilomètres, plutôt gérer les cas un peu dégradés, les erreurs, les moments où finalement on a besoin de réfléchir. Et les robots, eux, viennent faire le travail difficile.
Alors pour l'instant, j'ai bien compris, les hommes réfléchissent, les robots exécutent. Est-ce que par la suite, les intelligences artificielles vont suppléer, compléter les humains aussi dans leur tâche de gérer ces robots ?
C'est assez difficile à prévoir jusqu'où on pourrait aller avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, même s'il y a des choses assez incroyables dans le résultat avec des intelligences artificielles du style de ChatGPT, qui fait beaucoup parler d'elle, derrière, les technologies ne sont pas magiques. En réalité, derrière, il y a des gens qui travaillent pour entraîner les modèles, pour faire de l'apprentissage, et on reste toujours sur des technologies qui vont permettre d'aider à la décision. À aujourd'hui, une intelligence artificielle qui pourrait avoir sa propre conscience et qui pourrait s'autodévelopper, ça reste de la science-fiction. Ce sera peut-être un jour le cas. Dans tous les cas, je reste persuadée et l'ensemble de la profession, je pense aussi, que dans un... toutes ces technologies sont vraiment plutôt à venir en aide pour pouvoir être meilleur dans les décisions. Je pense à toutes les applications, par exemple, dans la médecine, pour permettre de détecter des maladies plus tôt, pour permettre d'assister les chirurgiens dans des interventions difficiles. Ça ouvre tout un spectre de choses qui, aujourd'hui, avec nos compétences humaines seules, ne sont pas possibles. Ça va être rendu possible. Et finalement, les métiers d'aujourd'hui vont certainement évoluer. Un grand nombre risquent de disparaître, mais au profit de nouveaux métiers qui, aujourd'hui, sont seulement en train d'émerger.
Ce qu'on peut peut-être craindre, c'est que ces nouveaux métiers ne soient pas accessibles au grand public, notamment les personnes qui n'ont pas un niveau d'études ou de compétences, ou peut-être même d'intelligence naturelle, qui permettrait de maîtriser ces situations.
Alors, c'est vrai, mais on a aussi tout un tas d'interactions qui nécessitent du service, qui nécessitent justement de la chaleur et de l'interaction humaine. Là où aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs d'activité, les personnels se plaignent de ne pas avoir le temps pour le relationnel, pour le service, pour le client, parce qu'ils font des tâches rébarbatives ou répétitives, les technologies peuvent permettre justement de remettre l'humain au centre et de revenir là où l'humain est essentiel, c'est-à-dire dans les relations.
Alors, j'imagine que chaque entreprise que vous fournissez en robot a sa propre philosophie d'une certaine manière et a ses contraintes, notamment économiques.
Oui, c'est vrai. Nos systèmes, en fait, sont vus comme une certaine flexibilité et une capacité à développer des marchés et des nouveaux usages. On l'a vu sur ces dernières années avec l'essor du e-commerce, des usages de consommation qui demandent des livraisons plus rapides. C'est toute la chaîne logistique qui est tirée par l'avant. Par contre, en termes de prévision et de prédiction de la rapidité à laquelle ces usages se développent, des solutions comme les nôtres permettent d'avoir un juste équilibre entre le besoin de performance et celui de flexibilité, et du coup d'accompagner ces changements dans les business models même des entreprises.
Dans vos clients, est-ce qu'il y a une taille critique où ça devient intéressant d'intégrer vos solutions ?
Je dirais que non, parce que quand on regarde notre portefeuille de clients et les cas d'usage dans lesquels on vient s'interfacer, on a des tout petits systèmes avec quelques milliers de références et quelques robots de l'ordre de la dizaine, jusqu'à des entrepôts qui font la taille d'un terrain de foot avec 200 robots. Donc on peut s'adapter à beaucoup de choses. On travaille sur des composants qui sont très standards, qu'on assemble ensemble comme des mécanos, comme des Legos, et on est capable de s'adapter finalement à toutes les tailles.
Alors, au niveau de vos composants, on peut voir aussi de vos matières, vos matériaux. Où est-ce que vous les trouvez ? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à votre métier ?
Donc, nos systèmes sont composés de métal, de plastique et de composants électroniques, on va dire, pour vulgariser. On a à cœur d'avoir l'empreinte écologique la plus maîtrisée possible. Donc, on essaye de sourcer de façon responsable et d'économiser nos matières premières. Maintenant, sur un certain nombre de composants, par exemple, en particulier les composants électroniques, le gros de la production se fait en Asie. Et donc, naturellement, on se fournit dans ces pays.
Donc, on parlait pendant la crise sanitaire de problèmes d'approvisionnement des composants. C'est réglé maintenant pour vous ?
On reste encore sur un marché qui est assez tendu. Du fait des conséquences de la crise, mais pas seulement. Ce sont des marchés qui sont en évolution. Beaucoup, la demande a tendance à exploser et donc les fournisseurs s'adaptent, mais on a des équipes, en tout cas chez nous, qui sont très attentives aux ruptures d'approvisionnement pour pouvoir les anticiper et pour pouvoir nous répondre aux engagements qu'on prend auprès de nos clients.
Donc en termes justement d'électronique et surtout de microprocesseurs ou de semi-conducteurs, est-ce que ceux dont vous avez besoin sont hyper exigeants et très pointus ou bien ils sont dans le marché standard de ce qui est produit ?
On a un peu des deux. On a certains, au maximum, quand on peut utiliser des composants du marché, c'est ce qu'on fait pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements, pouvoir diversifier nos sources fournisseurs. Mais on a aussi des bureaux d'études qui nous permettent de proposer nos propres designs sur un certain nombre de pièces. Et donc, les fabricants ensuite designent à façon en fonction de nos plans. Donc on reste maître de ce qu'on produit et de la façon dont on le fait.
Donc votre marché, il est à la fois régional, national et international. Évidemment, votre entreprise se développe et elle cherche en même temps, recherche et développement.
Oui, complètement. On a une approche de la R&D qui est très, très pragmatique. On a une R&D qui doit fonctionner sur le terrain, sur les sites, sur les entrepôts de nos clients. On ne fait pas de la recherche expérimentale, on est vraiment dans de l'appliqué. On intègre dans nos produits des solutions innovantes, mais qui ont toujours un impact réel sur nos solutions, sur leur performance, sur leur fiabilité. On ne s'arrête pas à la porte du labo, on va directement sur le terrain pour s'assurer que ce qu'on propose en termes d'innovation est pertinent et s'intègre bien dans l'environnement et dans le besoin de nos clients.
Donc votre équipe est assez nombreuse et demande beaucoup de spécialisation, de spécialité et des gens formés. Est-ce que les laboratoires ou les universités, les lieux de formation de la région répondent à votre demande ou vous devez aller bien au-delà ?
On n'a pas de critères géographiques, en tout cas dans nos recherches. Néanmoins, le bassin local est une bonne source de recrutement. Comme je disais tout à l'heure, on recrute énormément, on double la taille de nos équipes tous les ans. Cette année, rien que sur mon périmètre, donc moi je suis responsable de l'équipe R&D qui fait du logiciel et l'infrastructure de nos produits. On va recruter une cinquantaine de développeurs, de DevOps, de gens qui ont plutôt des profils techniques et qui vont sortir de nos universités locales, de Lille, de Valenciennes, mais aussi d'écoles d'ingénieurs comme Polytech, comme l'ICEN. Et on travaille assez en proximité avec, avec ces écoles pour qu'elles puissent connaître les opportunités qu'on a au sein de nos équipes et pour qu'on puisse travailler intelligemment, par exemple avec Epitech. On va les voir régulièrement parce qu'ils ont un cursus et un programme dans le développement des ingénieurs qui est très proche de ce qu'on recherche en fin de scolarité.
Alors, on a constaté qu'un certain nombre de personnes bien formées de haut niveau quittent la région, voire même la France, pour valoriser leurs compétences à l'étranger. Est-ce que vous êtes une solution pour ceux qui voudraient rester ?
On est à la fois une solution pour ceux qui veulent rester, mais on est aussi une solution pour les gens qui veulent goûter quelque part à l'ambiance internationale. On a la chance d'avoir des bureaux, des antennes au Japon, aux États-Unis, en Allemagne. Et on a une croissance internationale qui est très forte, ce qui fait qu'on a l'occasion de pratiquer l'anglais au quotidien, de discuter avec des clients qui viennent de partout en Europe et dans le monde. Donc c'est un environnement multiculturel qui est super enrichissant. Et en même temps, on a une proximité locale qui fait qu'on a un vrai confort de vie et qui permet de s'ancrer dans notre belle région. Donc on cumule pour moi les deux avantages.
Alors avant que les cerveaux ne s'échappent, il y a peut-être des moments où vous présentez un peu votre établissement, votre entreprise pour les capter et les captiver.
Oui, on essaye d'être présent dans les salons étudiants, mais aussi on essaye de développer notre visibilité auprès des différents publics. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous remercie aussi de m'accueillir aujourd'hui. Je pense que le monde de la robotique peut paraître très fermé. On peut se dire, si je n'ai pas des compétences particulières, il n'y a pas forcément des choses pour moi. Et pourtant, on a un éventail de carrières possibles chez nous qui sont extrêmement larges. On peut faire de la mécanique, on peut faire de l'électronique, on peut faire du déploiement, de la maintenance, on peut faire du service client, on peut faire du développement à peu près dans tous les langages chez moi, y compris du web. On a des robots, on pilote nos robots grâce à des interfaces web. Donc il s'agit de le faire connaître. Et pour ça, on participe également à d'autres événements. Par exemple, la Coupe de France de robotique sur laquelle on intervient tous les ans. Et dans les mois qui viennent, on organise notre propre challenge qui s'appelle l'ExoLégende. Et qui sera une compétition autour de robots et qui aura lieu du 30 mars au 1er avril.
Ce sera ouvert au public ?
C'est ouvert au public, tout à fait. Les inscriptions sont ouvertes. On peut retrouver toutes les informations et sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site exotech.com. Il suffit de s'inscrire. On peut y venir tout seul, on peut y venir en équipe. Et il s'agit de programmer un petit robot pour faire une compétition dans un labyrinthe. Voilà, donc il y a une phase de programmation. Il y a besoin de rien à part juste de venir avec ses neurones. On programme et puis à la fin il y a une compétition. C'est assez ludique. Et voilà, c'est l'occasion aussi de nous rencontrer.
Voilà, donc rendez-vous peut-être pour plus d'infos sur le site
exotech.com.
Merci Stéphanie Foucard.